RFI.
L'atelier des médias.
Salut, c'est Ziad Malouf de l'atelier des médias. Lundi prochain, 21 septembre, le projet de loi français pour la République numérique sera mis en consultation publique pour une durée de 3 à 4 semaines. Il sera ensuite examiné à l'Assemblée nationale début 2016. Ce projet devrait traiter de données publiques, d'intérêt général, de droit à l'oubli ou de commun. Ce terme qui désigne les richesses, contenus, projets élaborés collectivement ou individuellement et mis à disposition de chacune, de chacun, notamment grâce aux nouveaux outils de partage. Par un hasard de calendrier, ce dimanche, veille du 21 septembre, se clôture l'opération Paris Budget Participatif qui a permis pendant 10 jours aux habitants de la capitale française de voter en ligne pour des centaines de projets et répartir 75 millions d'euros de subventions accordées par la ville. Ces consultations publiques sont bien entendu innovantes, comme est innovant le site du gouvernement français. Vous pouvez sur ce site cliquer sur le nom de chaque ministre. Aux côtés de la biographie de bon nombre d'entre eux, vous avez un lien vers leur déclaration de patrimoine et d'intérêt. Cette déclaration est publiée sur le site de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Je suis personnellement fasciné par toutes ces évolutions récentes, dues notamment au travail de lobbying, d'organisations citoyennes. L'État français se modernise, ou en tout cas communique pour montrer sa modernité, ce qui est déjà pas mal. Je suis fasciné, en même temps je suis frappé par la manière dont le reste de la société stagne. Combien de journalistes publient leurs déclarations d'intérêts en ligne? Combien d'organes de presse publient leurs comptes? Combien d'entreprises font preuve d'exemplarité, de transparence dans leurs méthodes et leur gestion? Combien donnent de véritables moyens aux services de responsabilité sociale et environnementale, les fameux RSE, qu'ils ont eux-mêmes créés? Quels médias publics se soucient des licences et droits attachés aux productions qu'ils payent avec l'argent du contribuable? Qui facilite la recherche et le développement? Le monde est en train de changer. Il faut que les décideurs et que chacun d'entre nous en prenne conscience. Aujourd'hui, dans l'atelier des médias, nous donnons la parole à deux spécialistes qui œuvrent à leur manière pour une modernisation de la France et plus généralement une meilleure compréhension des problématiques, des enjeux qui vont façonner l'avenir de notre planète.
L'atelier des médias, la web émission participative. Atelier@rfi.fr.
Open data, données ouvertes, data journalisme, journalisme de données, data broker, courtier de données, data analyst. Les données sont partout. En moins de 10 ans, une nouvelle réalité s'est développée. Une couche d'information est venue se superposer sans crier gare au monde physique qui nous entoure. Nul ne sait où cela nous mène. On prophétise tour à tour un monde plus juste, plus équilibré, plus libre grâce aux données, ou à l'inverse, une surveillance généralisée, un asservissement des humains aux machines et aux algorithmes qui les rendent intelligentes. Conscients de ce phénomène, des inquiétudes et de l'incompréhension qu'il suscite, nos invités ont choisi d'apporter leur pierre à l'édifice. Dans un court essai, ils proposent une approche économique des données qui s'adresse aux décideurs, mais aussi aux citoyens qui, de manière consciente ou non, sont probablement les premiers producteurs de cette matière première que sont les données. Bonjour Simon Chignard.
Bonjour.
Vous êtes data editor de la mission Etalab, une fonction et une institution qu'on peut déjà expliquer. Data editor, Etalab.
Alors, Etalab, c'est un service du Premier ministre qui existe depuis fin 2011 et qui a en charge la politique d'ouverture des données publiques, donc d'open data au niveau national. Voilà. Et on édite notamment le portail, la plateforme ouverte des données publiques, data.gouv.fr. Et le data editor, ben, c'est un nouveau métier, on va dire, de charger d'éditorialiser cette plateforme des données.
Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, éditorialiser des données?
Ben, ça veut dire notamment, sur cette plateforme, on met en avant un certain nombre de jeux de données en fonction de leur thématique, on met en avant des réutilisations qui peuvent en être faites. Donc c'est faire le choix de ces mises en avant et de sur quoi on va essayer de mettre l'accent pour montrer tout le potentiel des données ouvertes.
On va entrer dans le détail et expliquer ce que sont les données. Bonjour Louis-David Benyayer.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en stratégie, passionné de modèles économiques et membre du réseau d'experts de la mission Etalab, c'est correct ?
Tout à fait.
Et tous deux, vous venez donc de signer à quatre mains un ouvrage au titre qui peut lui aussi sembler étrange, Datanomics, un mot barbare et un anglicisme qu'on peut déjà expliquer, Simon.
Oui, en fait, Datanomics, c'est ce programme-là d'essayer d'expliquer les données sous un angle plutôt économique.
Pourquoi l'angle économique ? Louis David.
Certains choix économiques sont guidés par des contraintes techniques. Certaines décisions géopolitiques sont bien sûr inspirées par des enjeux économiques. Donc, dans ce qu'on a voulu faire, justement, c'est de façon assez humble, essayer de faire sentir les interactions de ces différentes dimensions avec une clé de lecture, qui est sûrement pas la seule, qui est celle de la valeur. On est tombé dessus assez rapidement, puisque la valeur, c'est quelque chose d'assez stimulant et intéressant, puisque c'est à la fois la cause et le résultat. C'est parce qu'on anticipe qu'il y a de la valeur qu'on va faire quelque chose, et c'est en faisant des choses qu'elles acquièrent de la valeur. Donc on est parti de ce point de départ, de cette hypothèse, que pour raconter l'histoire de la donnée, c'était productif de tirer le fil de la valeur, donc de décrypter comment elle se créait, comment elle se répartissait au sein d'écosystèmes économiques concurrentiels, mais aussi au sein d'organisations internationales, etc.
Alors, qu'est-ce que c'est, les données ?
Effectivement, alors il y a évidemment tout ce qui est lié au numérique et à l'utilisation des moteurs de recherche. Toutes les requêtes Google que chacun d'entre nous composant minute après minute constituent un stock de données colossal. Les données associées aux réseaux sociaux, les statuts qu'on poste sur Facebook, les photos, les commentaires, etc. sont une autre source de données importante, toutes les données de la statistique publique qui sont de plus en plus importantes.
Il y a des données qu'on... Là, vous donnez des exemples actifs, c'est-à-dire on entre une requête, on renseigne notre profil sur un réseau social, mais il y a aussi des tonnes de données qui sont collectées sans qu'on s'en rende compte et de manière passive.
Oui, exactement. Et c'est probablement ça la prochaine vague de données qui est déjà en train de déferler, mais qui va devenir de plus en plus importante. Ce sont les données qui sont produites par des objets connectés.
Au premier rang duquel le téléphone intelligent, que beaucoup de gens ont dans leur poche maintenant, partout dans le monde.
Qui génère des données de géolocalisation, etc. Mais on peut aussi parler des capteurs qui sont de plus en plus posés sur les infrastructures de transport, les autoroutes, etc. Et puis, tous ces objets connectés qui font partie du quotidien, les montres connectées, les chaussures connectées, et puis dans l'industrie, tous les capteurs qui sont mis dans les équipements industriels, dans les usines, mais aussi sur les objets, avec l'ancêtre des objets connectés qui étaient les puces RFID, qu'on connaît bien depuis une vingtaine d'années maintenant, tout ça va générer de plus en plus de données. Et ce qui est frappant, c'est que ces données sont gérées de façon continue. Elles sont pas gérées de façon discrète en faisant des campagnes de recensement de données. Elles sont générées.
Elles arrivent en permanence.
Elles arrivent en permanence.
Elles renseignent en permanence des bases de données et elles alimentent aussi la compréhension. Par exemple, vous avez donné l'exemple de Google. Le moteur de recherche se perfectionne au fur et à mesure des données qu'il collecte.
Oui, le moteur de recherche, et puis il y a un exemple aussi sur les logiciels de traduction, qui pour certains se sont construits, non seulement améliorés, mais construits par l'analyse des données des utilisateurs des logiciels de traduction qui choisissaient certains mots par rapport à d'autres, et tout ça a permis de façon beaucoup plus efficace que d'embaucher des linguistes émérites de proposer de façon très rapide des traductions pertinentes.
Pour donner une idée, chaque jour, vous le rappelez, il y a 2,5 trillions d'octets de données qui sont produites et 90% des données disponibles aujourd'hui ont été produites durant les deux dernières années.
Peut-être qu'au-delà des volumes, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que, effectivement, par les traces dont on a parlé tout à l'heure, les données qu'on produit aujourd'hui sont pas tout à fait les mêmes, en fait. Ce qui caractérise aujourd'hui les données, c'est qu'autrefois, c'était des phénomènes de rareté. Ça coûtait cher, hein. Si vous aviez appris à développer de l'informatique dans les années 70-80, vous aurez appris à faire beaucoup de choses sauf du big data, hein. Ça coûte cher à stocker, collecter une donnée il y a encore 30 ou 40 ans. Et aujourd'hui, c'est tellement peu cher parce que baisse des coûts de stockage, de traitement et autres, et ben qu'on commence à tout collecter. Auparavant, on faisait des choix. Maintenant, on dit le choix, on le fera plus tard dans l'analyse, mais en tout cas pas dans la collecte.
Et parallèlement, la demande, le besoin de données progresse.
Oui, ben il progresse à plusieurs titres parce que on voit bien dans les entreprises, mais aussi dans les organisations publiques, ce besoin de quantifier un peu les choses, cette notion de reporting, de rendre des comptes, d'être redevable des choses. Tout ça, ça a demandé beaucoup de données. Et il y a même une appétence au niveau social. Hein. Prenez le mouvement de la quantification de soi. Tous ces gens qui vont porter un bracelet pour enregistrer le nombre de pas qu'ils font par jour, le nombre de calories qu'ils dépensent. Donc on voit très clairement qu'il y a cette demande. Il n'y a pas qu'une offre de données plus importante, il y a aussi une demande plus importante.
Et il y a aussi différents types de données. C'est-à-dire qu'il y a des données qui vont être structurées, il va y avoir des données qui ne sont pas structurées, comme des tweets ou des statuts Facebook.
Peut-être que l'auditeur peut entendre la donnée au sens qu'est-ce que j'ai dans un tableur Excel. Un tableur Excel, alors vous voyez, vous avez des lignes, vous avez des colonnes, et puis vous avez des cellules avec un chiffre peut-être à l'intérieur. Mais là, quand on parle des données que vous produisez dans un tweet, le format du tweet, hormis que c'est 140 caractères, après vous mettez ce que vous voulez dedans. Vous voulez mettre des smileys, vous mettez des smileys. Vous voulez pas en mettre, vous en mettez pas. Vous voulez mettre un lien, vous en mettez un ou pas. Tout ça, c'est des données qu'on appelle effectivement non structurées. C'est plutôt ce deuxième type de données qui progresse, et c'est aussi celui qui pose le plus grand défi en matière de traitement et d'analyse.
Et puis il y a aussi, plus des données, comme tu viens de les décrire, il y a ce qui s'appelle les métadonnées, qui s'ajoutent à la donnée de base. Si on reprend l'exemple du tweet, bien sûr que le tweet en 140 caractères, il n'est pas structuré. En revanche, sont associés à ce tweet un nombre important de données qui, elles, sont structurées. L'heure du tweet, évidemment l'identifiant de celui qui tweet, sa localisation géographique, son pays d'origine, bref, toutes les informations qui sont associées à l'utilisateur et au moment où le tweet est publié. Et ce qu'on voit bien, c'est que derrière des données non structurées, qui peuvent déjà faire l'objet d'une analyse, d'un tri, etc., eh bien, il y a également toutes les données qui sont associées, et on parle d'ombre portée des données, c'est-à-dire qu'on n'a pas conscience, quand on envoie un tweet, qu'on signale également toutes les informations qui sont associées à nos identifiants sur cette plateforme qui est Twitter, au lieu depuis lequel on envoie le tweet.
Alors on comprend bien en vous écoutant que aujourd'hui il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de données qui sont produites parce que nous sommes tous connectés, parce que c'est simple et peu coûteux de les stocker, mais la véritable question qui se pose, c'est que peut-on faire avec ces données ? Et le premier outil pour utiliser ces données, c'est l'algorithme.
Effectivement, alors l'algorithme, c'est à la fois le produit et le résultat des données. C'est-à-dire que un algorithme, c'est un programme informatique qui permet d'appliquer un traitement sur une masse de données. Mais les algorithmes se nourrissent aussi des données, font évoluer leurs règles en fonction des résultats qu'ils constatent. C'est l'exemple que je donnais tout à l'heure sur la traduction, où l'algorithme de traduction a évolué dans son fonctionnement en fonction des données qui étaient rassemblées par les différentes traductions qui étaient collectées. Ces deux réalités sont indissociables. La réalité de la production des données qu'on vient de décrire et celle de l'utilisation et de l'exploitation par les algorithmes sont indissociables. On imagine peu de valeur, peu d'intérêt à stocker des données comme on thésauriserait des pièces d'or. Ça n'a aucun sens. Elles ne valent quelque chose, ces données, que si on peut les utiliser. Pour les utiliser, on a besoin d'algorithmes. D'une autre façon, un algorithme très puissant qui ne s'appliquerait pas à un montant important de données aurait une pertinence très faible. Donc ce qu'on a souhaité décrire également, c'est bien cette relation de dépendance réciproque entre, d'une part, ses capacités de production, de stockage, etc., et ses capacités d'analyse, puisque ce qu'on a décrit, c'est que les acteurs qui utilisent ces données-là les utilisent pour prendre des décisions, pour vendre des choses, pour influencer des décisions, pour aller plus vite, pour faire moins cher, etc., etc. Et ça, bah, c'est en partie l'algorithme qui le permet.
Et ce qui est compliqué aussi avec les données, on va parler dans un instant de leur valeur, de l'économie des données, mais ce qui est compliqué, c'est qu'avec un des dizaines et des dizaines de jeux de données, on peut, avec un algorithme, avec une recherche, porter un regard sur le monde qui n'a rien à voir avec les informations d'origine. C'est-à-dire qu'on peut pas anticiper ce qu'on va pouvoir prédire avec les données. Il y a, par exemple, en utilisant les téléphones portables, on va savoir quel est le trafic, même si on n'a pas des capteurs partout dans la ville pour savoir où passent les voitures.
Exactement. Il y a un exemple qu'on développe dans le livre en introduction qui est celui de la, comment on surveille la grippe dans un pays comme la France. Ça, c'est intéressant parce que depuis à peu près, depuis l'année 1984, en France, on a un système qui est mis en place par le ministère de la Santé qui s'appelle le réseau Sentinelle, des médecins qui déclarent chaque semaine tous les cas de grippe qu'ils ont opérés. Donc ça a fonctionné pendant des années, ça fonctionne toujours et ça donne de très bons résultats. Et puis depuis 2008, Google, dans le cadre de ses recherches d'activité, a développé quelque chose qui s'appelle Google Flu Trends et qui, en gros, fait à peu près la même chose, mais en regardant...
Donc flu, en anglais, c'est la grippe. Hein.
Voilà. Qui regarde, en fait, ce que les gens tapent sur le moteur de recherche. Donc, si vous tapez nez qui coule, les yeux qui grattent ou la gorge qui gratte, eh ben, on va considérer que vous êtes potentiellement, vous aussi, grippé ou qu'un de vos proches est grippé. Et donc, on voit bien que j'y avais qu'une seule manière de mesurer la grippe, puis là, il y en a une deuxième. Et puis, il y en a d'autres aussi qu'on cite. On a des sociétés aujourd'hui qui commencent à récupérer les tickets de caisse des pharmacies. Alors, vous allez me dire, un ticket de caisse d'une pharmacie, en quoi ça mesure la grippe? Eh ben, si vous achetez dans votre pharmacie du paracétamol, plus un décongestionnant pour le nez, plus de la vitamine C, ben, on va dire qu'a priori, peut-être que vous-même, vous êtes grippé. Et puis, ainsi de suite. Il y a des gens qui analysent les tweets pour essayer de repérer les cas de grippe. Alors là, va falloir distinguer, hein, celui qui dit j'ai la fièvre du samedi soir et celui qui, effectivement, dit mon enfant a la fièvre et ainsi de suite.
Donc, on comprend bien avec ça qu'il y a des masses de données qui sont collectées aujourd'hui, qu'on peut en faire des usages, parfois des usages inattendus, et ça pose la question de la valeur. Qu'est-ce que ça vaut, cet univers de données? Comment est-ce qu'on détermine la valeur de ces données?
Pour essayer de cheminer là-dedans, on a repris les fondements habituels de ce qui accorde de la valeur aux biens et aux services. Bon, ce qu'on a l'habitude de voir, c'est le travail, utilité, rareté, travail. Un bien ou un service acquiert de la valeur par les efforts qu'il mobilise. L'utilité, c'est parce qu'on va pouvoir en faire quelque chose qu'on va y accorder de la valeur. Et la rareté, parce que ça, c'est un élément...
C'est paradoxal.
Paradoxal, puisque on vient d'exposer toute l'abondance des données. Donc, ce qui est rare, c'est l'accès aux données. La source, celui qui peut avoir accès au robinet. Et donc, sur cet aspect, justement, du travail, c'est un autre prisme pour analyser la valeur des données. Les données, on l'a commencé à le décrire, il faut des capteurs, il faut des connexions et transporter ces données, il faut les stocker, il faut les protéger dans des data centers, etc. Et tout ça, ça fait une somme de coûts qui contribue à établir la valeur des données. Et le troisième, qui est de notre point de vue celui qui est le plus explicatif de la valeur accordée aux données, c'est l'utilité que certains vont pouvoir faire de ces données. L'utilité que ces acteurs-là constatent, par exemple Google, c'est que avec les données des moteurs que chacun d'entre nous rentrons sur les moteurs de recherche, il va pouvoir nous proposer de la publicité ciblée qu'il va vendre. Donc il y a toute une inflation sur cette valeur-là qui est en partie, majoritairement, une valeur anticipée. Et donc se mettent en place des mécanismes pour les gens qui détiennent des données, des mécanismes prédateurs ou protecteurs consistant à se dire j'ai l'intuition et on me conforte dans cette intuition que ça a une valeur colossale, mais pour autant je ne sais pas trop quoi en faire. Et c'est aussi ça qui nous a frappé et qui frappe beaucoup de gens qui s'intéressent à ce sujet, c'est l'écart entre les promesses de valeur quantifiées de cette façon-là et la valeur directement perçue, tangible, par les différents acteurs de l'écosystème de la donnée.
Une autre manière d'évaluer la valeur, c'est la valorisation boursière de compagnies qui se sont spécialisées dans la collecte de données, au premier rang desquelles Facebook, par exemple, ou Google.
Oui, tout à fait. C'est intéressant, la valorisation boursière de ces entreprises, parce que c'est extrêmement difficile de distinguer ce qui relève de la donnée, finalement, de tout le reste. Et ça montre bien aussi que pour ces entreprises, la donnée, c'est intimement lié à leur activité même. C'est-à-dire, quelque part, quand on dit, si je regarde la valorisation en bourse de Facebook, je divise par le nombre d'utilisateurs, je vais dire, voilà la valeur des données de chacun de ces utilisateurs. Mais non, c'est pas tout à fait ça. C'est aussi parce que Facebook a un nombre tel d'utilisateurs qu'il est en situation... parfois même, on va dire, monopolistique sur certains pays, que on trouve cette valorisation boursière là. C'est vraiment difficile de distinguer ce qui relève juste de la donnée, du pouvoir qu'elle donne, cette dimension un petit peu d'actif, et puis de son utilisation vraiment très intelligente par ces entreprises et ces plateformes.
Et son utilisation
notamment pour vendre de la publicité, parce que c'est sur ça aussi qu'on va calculer leur valeur, leur capacité à vendre de la publicité à des personnes qu'elles connaissent particulièrement bien, parce qu'elles ont leur profil sur le réseau social ou parce qu'elles ont leur mail, etc., etc.
Tout à fait. Ça contribue effectivement à rendre, plus efficaces ces modèles publicitaires, mais pas seulement. Un exemple qui est assez récent et qui montre bien vers quoi on peut aller. Amazon, vous savez, propose un système de recommandation. Quand vous allez sur le site d'Amazon, on vous dit, vous avez aimé ça, et vous aimerez peut-être tel ou tel livre. Bon. Et en l'occurrence, Amazon vient de déposer un brevet disant ils sont tellement sûrs de la fiabilité de leurs recommandations qu'ils déposent un brevet pour préparer votre commande avant même que vous ayez commandé.
Courte pause dans l'atelier. Simon Chignard et Louis-David Benyayer, restez avec nous. Atelier des médias, les données sont partout, nous en produisons des pétaoctets à l'appel grâce aux nouvelles technologies, grâce aux capacités de stockage, grâce aux coûts réduits, grâce aux mathématiques appliquées, c'est-à-dire aux algorithmes. Les données sont en train de changer notre monde, nous en parlons avec nos invités.
L'atelier des médias, la web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf, Simon de Creuse.
Et vous,
Simon Chignard et Louis-David Benyayer, pour permettre de comprendre la valeur des données, vous proposez trois approches. La donnée comme matière première, la donnée comme levier et la donnée comme actif. Est-ce que vous pouvez détailler ? Ça devient bien sûr un peu technique, mais c'est important de comprendre.
Non, ça l'est pas. En fait, la donnée matière première, finalement, c'est ce qu'on connaît le plus, c'est-à-dire ce qui est le plus immédiat. J'ai des données, par exemple, des profils d'utilisateurs, et ça se fait depuis des décennies dans le marketing, de vendre des profils d'utilisateurs avec des adresses. Ce sont des données qu'on achète et qu'on vend au poids, et il y a un prix de marché pour avoir une base de données de plusieurs millions d'utilisateurs à qui on va pouvoir envoyer des informations. Ça, c'est une forme de valeur.
Il y a des courtiers pour ça aussi.
Et il y a des courtiers pour ça, qui sont parmi les opérateurs les moins visibles du marché, qui sont des opérateurs qui s'effacent assez facilement. On les imagine très humbles, et ne voulant pas mettre en avant leur réussite. Ce sont des entreprises...
Parce que concrètement, ils sont en train de vendre mon adresse mail, mon numéro de téléphone,
oui,
mon adresse postale, mon poids, mes amis, mon âge, etc.
Oui, et ce sont des acteurs, pour certains, qui ont ces informations-là pour des centaines de millions d'individus. Et donc ça, c'est la forme de valeur, un peu comme une matière première, une commodité. On achète, on vend au poids, avec un prix qui est établi par les acteurs du marché, la rencontre de l'offre et de la demande. Bon. Et puis, il y a une deuxième forme de valeur qui est moins marchande, c'est-à-dire qu'elle ne se traduit pas directement par une transaction, qui est la valeur en tant que levier. C'est-à-dire que ces données me permettent, en tant qu'acteur économique, de produire moins cher, de vendre plus, de vendre mieux, de réduire mes coûts, voire de produire de façon automatique. Et c'est probablement là qu'il y a un gisement de valeur le plus important de notre point de vue, comparé à la donnée en tant que matière première. Un exemple d'illustration, on parlait d'Amazon tout à l'heure. Amazon, aujourd'hui, classe ses clients sur la base des données de navigation. Donc, vous et moi qui allons sur Internet et qui, à un moment, allons sur le site Amazon. Amazon nous classe en une catégorie, ceux qui sont sensibles au prix ou ceux qui sont pas sensibles au prix. Pour prendre cette décision, ils analysent notre circulation sur Internet. Pas seulement ce qu'on a fait sur Amazon, mais aussi sur d'autres sites. Et vous avez compris ce qu'ils en faisaient ensuite de cette information. C'est-à-dire que ceux qui sont sensibles au prix ne reçoivent pas pour le même produit, le même prix que ceux qui ne sont pas sensibles au prix.
C'est inquiétant, non ?
Certains, parmi les plus libéraux, pourraient argumenter que finalement, c'est un mécanisme d'optimisation et d'hypersegmentation des prix, et que ce n'est uniquement que le prolongement d'un mécanisme de segmentation marketing qui va au-delà de la catégorie socio-professionnelle, du lieu, etc. On sait déjà qu'on ne paye pas tous le même prix pour le même produit, suivant quelques critères, notamment notre ancienneté chez ce fournisseur, Ce qu'on vous constate là, c'est un prolongement de ce mécanisme de segmentation sur d'autres critères. Bon, évidemment, les autorités de la concurrence et de la protection des consommateurs ont des avis de façon assez légitime, très différents, et considèrent que entre la plateforme et l'individu, il y a une asymétrie d'information tellement forte que l'utilisateur, l'individu, n'est pas mis dans un deal qu'il peut accepter en connaissance de cause. Donc, bon, il y a les deux visions, hein, et on va voir comment s'établissent, et c'est ça qui nous intéresse le plus, je crois, comment va se positionner le balancier dans la régulation de ces plateformes sur ces sujets-là et sur d'autres qui sont associés aux données.
Les données comme matière première, les données comme levier pour prendre des décisions, cibler ses clients, mais aussi les données comme actifs stratégiques. Qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est ce troisième volet, cette troisième facette de la valeur de l'actif stratégique, c'est de dire qu'en fait, parfois, le fait pour un acteur, que ce soit une entreprise ou un État, hein, de posséder une donnée, lui donne une capacité, une position particulière sur le marché au sens large. Pour donner un exemple, prenez l'exemple des données GPS. Hein, donc le GPS, c'est tout un réseau de satellites qui a été lancé par les États-Unis. L'armée américaine, à vocation militaire, hein, ce réseau de satellites, et qui, depuis le président Clinton, est accessible à tout le monde. Un GPS, votre téléphone intelligent, votre smartphone, il utilise les signaux GPS qui sont captés. Qu'est-ce qui donne de la valeur au GPS ? C'est pas le prix que vous y payez, puisqu'en l'occurrence, vous ne payez rien pour accéder au GPS. Est-ce que c'est le coût ? Ça a coûté des dizaines de milliards de dollars de mettre en place ces satellites. Mais on voit bien qu'en fait, la vraie valeur, elle est stratégique. C'est là où c'est un actif stratégique pour l'armée américaine, pour le gouvernement américain, puisqu'il a la capacité, une fois qu'il a ouvert ce robinet, de le refermer aussi. Et d'ailleurs, il le fait en zone de guerre. La précision du signal GPS que vous recevez est largement dégradée. Il n'y a rien qui interdit demain le gouvernement américain de dire que un jour où les décisions européennes ne lui plairaient plus, il dégraderait d'un seul coup la précision du GPS avec des impacts, on va dire, économiques très forts. C'est pour ça que l'Europe construit son propre système de positionnement satellite aussi.
D'un point de vue plus commercial, quelqu'un comme Apple, par exemple, qui va vous vendre un téléphone, qui va associer votre carte bleue à ce téléphone, puis toute une série de services, etc. Eux aussi, ils ont une forme d'actif stratégique important vis-à-vis de vos données, parce qu'ils vous connaissent par cœur, parce qu'ils vont servir d'intermédiaire. Google fait pareil, tout le monde tente de faire pareil.
Oui, concrètement, ça signifie qu'ils augmentent les barrières à la mobilité, c'est-à-dire qu'ils réduisent votre capacité à aller voir ailleurs. Pas seulement parce que leur offre est la plus performante, mais parce que vous avez tellement à perdre si vous souhaitez aller chez quelqu'un d'autre. On imagine bien pour un utilisateur de Google qui utilise Gmail comme service de messagerie, le coût à la mobilité pour changer de service de messagerie est perçu comme étant très important. Et là, c'est une autre valeur d'actif stratégique. On ne parle pas de ces données-là comme de la base du modèle de rémunération à la pub, hein, mais pour Google, le fait qu'on entre ces données-là, bah, c'est une barrière à la mobilité importante pour les utilisateurs. Mais il y a un autre exemple qui est intéressant, c'est dans les plateformes de l'économie collaborative, Airbnb, qui permet à chacun d'aller chez son voisin dormir, même si son voisin est très loin, ou Uber qui est sur les taxis courtes distances. Les données des utilisateurs ont aussi un rôle essentiel, qui est de produire la confiance nécessaire aux échanges. On sait l'importance de la confiance dans les transactions économiques. Et parmi les éléments qui expliquent que ces plateformes ont réussi une percée aussi rapide et aussi forte, c'est qu'elles ont réussi à produire de la confiance. Les données n'y sont pas pour rien. Puisque quand vous utilisez ce service-là, votre identité est vérifié, ou en tout cas vous êtes amené à vous déclarer selon votre vrai nom, vous êtes noté par vos pairs au sein de la plateforme, il y a un historique de données, plus vous utilisez la plateforme, plus votre profil est valorisé, etc., etc. Et ces données que nous rentrons si nous utilisons ces plateformes produisent la confiance nécessaire aux échanges sur ces plateformes.
On voit quand même poindre un questionnement un peu fondamental sur le monde qui est en train de se dessiner. Et une des premières conséquences constatées, c'est le bouleversement de l'univers concurrentiel. C'est-à-dire que une entreprise comme la SNCF, par exemple, en France, son concurrent, ça n'est plus son homologue allemand ou son homologue italien. Ça va être un service de covoiturage. tout simplement. Donc quelqu'un qui vient d'un autre secteur, qui ne possède pas de voiture parce qu'il met en relation des conducteurs, etc. Et ce genre de constat est valable dans toute une série de secteurs de l'économie. Uber, Airbnb, donc pour les hôtels, les hôtels Accor qui sont concurrencés par des gens qui ne possèdent aucune chambre, qui vont juste mettre en relation.
Tout à fait. Ce que cette économie de la donnée révèle aussi, c'est que finalement, c'est des couches supplémentaires de concurrence. Prenez l'exemple de l'automobile. Il y a 10 ans ou 15 ans, le concurrent de Peugeot, c'était Renault, c'était tout un tas de constructeurs automobiles. Et puis on voit bien que demain, ça devient aussi Google, parce que produit la Google Car et que ça devient des nouveaux acteurs. En fait, c'est pas que la concurrence a changé, c'est qu'il y en a de plus en plus de concurrence et qu'on voit arriver des concurrents qui sont issus de secteurs très différents. Et ça, je pense qu'il y a un certain nombre de grandes entreprises qui l'ont saisi. Guillaume Pépi, le patron de la SNCF que vous citiez tout à l'heure, quand il s'adresse à ses cadres en disant « notre principale concurrence, c'est Google », on est bien dans la volonté, nous semble-t-il, de marquer les esprits pour bien dire « attention, notre concurrence, c'est pas l'avion, c'est pas le bus, c'est pas la voiture, c'est quelqu'un qui est loin d'ici, qui fait un métier complètement différent, mais qui demain va comprendre grâce aux données toute une partie de notre activité et serait capable de nous en sortir ».
Et la gestion des données pour la SNCF, alors qu'il y a 5 ans, c'était quelque chose d'un petit peu exploratoire, on parlait de données ouvertes, etc. Maintenant, ça fait partie de leur plan stratégique. En février 2015, ils ont annoncé qu'ils allaient faire payer l'accès aux données des TGV, c'est-à-dire à quelle heure ils arrivent, où ils passent, etc. etc. Donc, ils commencent à faire rentrer ça dans leur mode de fonctionnement.
Tout à fait. Alors, tout le monde a un peu commencé à mûrir sur ces questions-là. C'est-à-dire qu'avant, on expérimentait des choses et puis maintenant, on commence à poser des stratégies d'entreprise qui sont beaucoup plus claires, beaucoup plus nettes et peut-être aussi beaucoup plus dures au sens où elles traduisent bien des enjeux économiques qui deviennent vraiment importants.
Il y a une blague qui circule dans la Silicon Valley que vous citez, c'est « qu'est-ce qu'une voiture ? Réponse, un smartphone avec des roues ». Alors, c'est anecdotique, mais c'est aussi une blague qui donne quand même une idée de la manière de penser. C'est-à-dire que la voiture, l'enjeu de la voiture, ça ne devient plus les roues, le moteur, etc. Ça devient sa relation avec d'autres voitures, sa relation avec la route, sa relation avec les capteurs. Et finalement, les maîtres à bord, ce ne sont plus les constructeurs de voitures, mais ceux qui vont faire l'ordinateur au centre, c'est ça ?
Il y a ça, on a un bon exemple cet été dans l'actualité où il y avait une filiale de Nokia qui s'appelait IR, qui fait la cartographie. Voilà. Avant c'était Navtec. Voilà. Et cette filiale était à vendre. Et c'est très intéressant de voir quelles sont les entreprises qui se sont positionnées pour la racheter. Donc on avait Google, je crois qu'il y avait une offre d'Uber aussi, si je ne me trompe pas. Mais finalement, ceux qui ont remporté le morceau, c'est trois constructeurs automobiles allemands, dont BMW, qui se sont rassemblés entre eux pour racheter ce fournisseur de cartographie. Alors là, vous voyez, ça illustre quand même bien tout cet enjeu des datanomics, puisque la logique pour ces constructeurs automobiles était de dire, on n'a pas envie de mettre de la cartographie Google dans nos voitures, parce que quand on met de la cartographie Google collecte tout un tas de données sur nos conducteurs, sur nos véhicules, et donc on n'a pas envie de donner cet actif ou cette facilité supplémentaire à cet acteur.
Et on est dépendant d'un acteur qui peut changer les règles du jeu, et d'ailleurs Google l'a déjà fait avec sa cartographie, à un moment c'était entièrement gratuit, et ils ont fait, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais à un moment ils ont décidé de faire payer à partir d'un certain nombre d'utilisations, etc., comme le fait la SNCF aujourd'hui.
En complément, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien qu'il y a différentes vision de la bataille concurrentielle et économique. Les grands du numérique, ils ont une conviction, c'est que ce qui marche, c'est d'être dans une relation intime avec chacun des individus. Et c'est leur façon de concevoir leur façon d'entrer sur des marchés. Et c'est ça qu'ils nourrissent au gré des nouveaux services qu'ils développent, etc. Et c'est ce qu'ils arrivent bien à faire aussi, hein, en termes de design, mais pas seulement. On voit bien à quel point ces services-là sont devenus même plus quotidiens. On les utilise presque une fois par heure pour certains d'entre eux. Et leur conviction, c'est que dès lors qu'on est intime avec chacun des individus, on est le point de passage. Et donc, on est capable de monnayer ce point de passage. C'est une façon d'interpréter ces mouvements des grands du numérique qui viennent maintenant sur des secteurs qui sont beaucoup moins technologiques, beaucoup moins numérique. Et c'est ce qui fait que le combat, et c'est pour ça que le terme de concurrence est intéressant, mais finalement, dans l'imaginaire collectif, on s'affronte avec ses semblables. Or là, ce qu'on voit bien, c'est que c'est une lutte entre des gens qui sont pas du tout armés de la même façon, équipés de la même façon et qui ont pas les mêmes buts.
Les données, c'est économique, mais c'est évidemment aussi politique. C'est-à-dire que là, il y a tout un univers qui est en train de se construire, toute une couche de la réalité qui est en train de se construire. Et il va falloir des règles, il y en a déjà, mais il va peut-être en falloir de nouvelles pour protéger le consommateur, protéger l'individu, protéger les libertés. Et l'exemple que je donnais de la voiture s'applique aussi aux villes. C'est-à-dire que les villes deviennent aussi un lieu de combat pour les géants du numérique, où la ville va devenir un support aussi pour vendre des choses, gérer la circulation des individus, etc., etc.
Complètement. En fait, on voit bien que qu'il s'agisse des gouvernements partout dans le monde ou des villes et des territoires, il y a toujours cet enjeu de dire est-ce qu'on peut réguler ces activités ? Parce que ce qui est intéressant ces dernières années, c'est de constater que avant on pouvait dire bah voilà, il y a Airbnb, il y a Uber, tout ça c'est sur Internet entre guillemets. Ça nous concerne pas tellement nous en tant que territoire. Vous savez qu'à Paris, il y a 40 000 logements sur Airbnb. Donc là, on peut plus tellement dire non, ça nous concerne pas en tant que territoire, c'est un truc qui se passe en ligne ou autre. Vous avez tout un tas de villes touristiques en France où il y a plus de places disponibles sur Airbnb que dans les hôtels de la ville. Donc il y a quand même de sacrés enjeux de régulation. Ce qui est peut-être plus étonnant, c'est de voir que la donnée peut aussi permettre de réguler les choses. Et là, on voit cette approche de régulation par la donnée qui est très nouvelle, hein, en train de se construire. Par exemple, la ville de New York a autorisé à libéraliser les conditions d'exercice d'Uber dans la ville contre l'accès à des données. Hein, et ça, c'est nouveau un petit peu. On voit bien la donnée là, pour le coup. Alors, c'est vraiment de l'actif stratégique, pour reprendre notre analyse, où c'est, voilà, je t'autorise, mais en échange, donne-moi des données.
À l'échelle des gouvernements et des États aussi, les questions de données s'imposent. On parle beaucoup de données ouvertes, donc de mise à disposition des données liées à un pays. Ça, c'est un mouvement qui a commencé il y a une dizaine d'années, qui a pris beaucoup d'ampleur. Et il y a aussi un mouvement de législatif qui accompagne aussi l'arrivée des données. En France, le 21 septembre prochain, donc dans quelques jours, il va y avoir un projet de loi, le projet de loi pour une république numérique qui va être mis en ligne pour consultation publique. Donc on va demander aux internautes de réagir, poser des questions. Et il y a tout un volet qui est consacré aux données dans ce projet de loi.
Oui, il y a effectivement un volet qui est consacré aux données, à la fois dans la dimension données ouvertes et puis aussi dans la reconnaissance de nouveaux types de données. Je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Ce qui est, encore une fois, il y a 10 ans, dans la loi, cette notion de données n'existait pas véritablement. Vous savez, on parlait de documents administratifs, alors parfois on parlait de bases de données, mais la donnée, ça n'existait pas tellement.
Et puis il n'y avait pas de capacité de gérer autant de données, de stocker autant de données il y a 10 ans.
Oui, il n'y avait pas ces capacités, et peut-être que tous les enjeux étaient essentiellement de protection de la vie privée. Hein. C'est pour ça qu'on a créé la CNIL. Enfin, on a créé la CNIL pour gérer la question des données à caractère personnel, mais très vite, ça s'est orienté sur la question de la vie privée. Alors qu'on voit bien, si vous suivez l'agenda politique de ces derniers mois, c'est assez intéressant. Dans chacune des grandes lois qui sont passées au Parlement, il y a un volet autour de ces données-là. Dans la loi Macron, il y a la question de l'ouverture des données de transport. Dans la loi du projet de loi de santé, il y a une question d'ouverture des données de santé.
Dans la loi... renseignement, où on va connecter des boîtes noires aux données qui passent dans les tuyaux.
C'est un exemple. Dans la loi d'organisation territoriale, il y a une obligation d'ouverture des données pour les territoires. Donc on voit bien que on était passé de quelque chose qui n'avait pas de réalité législative à une accélération des termes, et le projet de loi pour la République numérique en est un bon exemple.
Votre livre s'adresse aux décideurs pour leur permettre de comprendre quels sont les enjeux de données, parce qu'il y a encore beaucoup de décideurs qui sont pas sensibles à ces questions. Hein. Il s'adresse aussi aux citoyens, parce que finalement, en lisant le livre, on comprend à quel point on est acteur de cet univers de données, à quel point on est producteur, chacun d'entre nous. Et du coup, vous donnez à la fin du livre plusieurs conseils. Donc, je vais vous citer, vous pouvez commenter, je vous cite rapidement. Donc, conseils aux décideurs politiques, économiques, locaux, nationaux, de développer un data mindset, c'est-à-dire un état d'esprit de données, c'est ça ?
Oui, c'est-à-dire effectivement, en tout cas, d'essayer de s'acculturer à ces questions-là. C'est pas simple, hein, ces questions de données, on le voit bien dans les échanges. Développer un état d'esprit donné, c'est effectivement se préoccuper de ça, de se dire, ben tiens, moi je suis maire de ma ville, qu'est-ce qui est fait des données qui sont collectées par la personne à qui j'ai confié la gestion des déchets, hein. On a beaucoup de délégataires de services publics là-dessus.
Qu'est-ce qui est fait des données des personnes qui utilisent les parcs-mètres, etc., etc.
Exactement.
Où est-ce qu'elles sont stockées ? Et ça, évidemment, aujourd'hui, très peu de maires, très peu de villes se posent ces questions, en tout cas des petites villes.
Oui, et puis au-delà de ça, c'est de s'engager pour essayer de comprendre justement ce qu'on a décrit là, c'est-à-dire ce cheminement entre ceux qui produisent, ceux qui utilisent les données, ceux qui en font quelque chose, pour percevoir un peu cette complexité. Ce qui rend difficile la perception, c'est que beaucoup des traitements ne sont pas transparents. Et c'est ça, nous, qui nous incite le plus à être prosélytes sur cette question, c'est que beaucoup de traitements ne nous sont pas rendus visibles. On est habitué, quand on va chez le banquier, à être scoré. On est habitué à ça. Quand
être
on va
scoré,
faire
c'est-à-dire noter
pour obtenir un emprunt, pour ouvrir un compte, on est habitué à ça. On est moins habitué à ce que notre banquier ou notre assureur nous évalue sur d'autres critères. Par exemple, on
que
est moins
du questionnaire qui nous a fait remplir, par exemple.
Par exemple, on a vu émerger des services d'assurance qui aujourd'hui offre une prime, un bénéfice, si on utilise un bracelet connecté qui mesure notre activité physique. On imagine qu'un prolongement ou une autre utilisation serait un peu comme certains assureurs automobiles refusent d'assurer certains conducteurs parce qu'ils ont beaucoup d'accidents. Eh bien, certains d'entre nous se voient privés de l'assurance santé privée, hein, puisqu'on est en France, parce que le niveau d'effort quotidien ne serait pas suffisant. Et ces éléments-là, nous, il nous semble important que chacun, on puisse les approcher. Et la bonne façon, qu'il nous semble, et celle qui est la plus facile, c'est de poser des questions. Et donc de poser des questions aux gens de notre environnement immédiat qui sont les villes, mais aussi peut-être au sein des entreprises. On est beaucoup à être salariés ou impliqués dans des organisations. On peut poser ces questions. Quelle est notre politique des données sur nos clients, par exemple ?
Et l'idée, c'est pas de dire à tout le monde « ouvrez vos données », c'est « prenez des décisions », c'est-à-dire partagez-les avec certains acteurs, décidez de garder confidentielles ces données-là pour telle et telle raison, donc développer une stratégie, c'est ça ?
C'est l'idée, c'est vraiment de se dire « préoccupez-vous du sujet ». C'est déjà un appel à la mobilisation, mais que ce soit d'ailleurs pour les décideurs ou pour chacun d'entre nous, hein, sans nécessairement dans nos fonctions de décideurs. Mais vous le voyez bien, on peut avoir une première réaction face à tous ces phénomènes dont on a parlé, qui est un peu de dire, ben, de baisser les bras, de dire, ben, finalement, c'est un peu inéluctable, on n'y peut rien, on est fiché, on est tracé, ces entreprises sont tellement puissantes, on peut plus rien y faire. Ce serait perdre de vue que, quelque part, chacun d'entre nous a aussi une petite capacité d'action. Alors, au niveau local, il a le droit de se mobiliser aussi sur ces questions. Il a le droit de produire lui-même de la donnée.
Il a le droit aussi, tout simplement, de lire les conditions générales d'utilisation des services qu'il utilise. Ça, c'est un des conseils vœu pieux, on peut le préciser, que vous donnez, parce que personne ne prend le temps de les lire et qu'en plus ils changent en permanence. Il a le droit donc de se renseigner, tout simplement, poser des questions autour de lui, conseiller, ça c'est, vous l'avez dit, mais on peut le rappeler, demander à son entreprise, à son dirigeant, etc., de quelle est la politique, le conseiller ou le lui suggérer d'établir une politique vis-à-vis des données. Et les données, c'est un petit peu tout le quotidien, c'est ça ?
En tout cas, ça, c'est de plus en plus tout notre quotidien. Il y a encore des territoires qui sont pas préemptés ou envahis par la donnée, mais on constate qu'ils sont quand même de plus en plus réduits, ces territoires.
Et on peut sinon décider d'avoir des stratégies pour éviter d'être suivis, que nos données de vie soient collectées, c'est-à-dire contourner des stratégies de contournement.
On peut essayer d'avoir des stratégies de contournement ou parfois même ce qu'on appelle les stratégies de retrait, c'est-à-dire de refuser de jouer le jeu. Alors, avec un exemple à la fois amusant et terrifiant qu'on cite, qui est celle de cette sociologue américaine, professeure à Princeton, qui décide de cacher sa grossesse aux algorithmes. Donc, elle appelle tous ses amis en disant « ne me félicitez pas sur Facebook ». Elle achète des chèques cadeaux pour ne pas, quand elle va acheter directement une poussette en ligne, que ça se repère. Elle utilise Tor, qui est un système d'anonymisation pour faire ces choses-là. Et puis finalement, elle a tellement essayé de sortir de cette société-là qu'elle s'est fait repérer. Parce que le jour où elle va aller acheter sa poussette et faire des gros achats avec des chèques cadeaux, ça déclenche une alerte du système, parce que c'est exactement ce que font ceux qui ont de l'argent à blanchir. Donc vous voyez, c'est aussi toute la limite du système d'essayer de s'en retirer et à la fois d'être rattrapé à la fin, parce que s'en retirer, c'est un comportement suspect.
Oui, David.
Effectivement, le levier d'action qu'on a tous, hein, il y a le levier de choix, de s'engager ou pas dans certains services. On sent bien que c'est difficile de se retirer de certains services. On peut aussi essayer de peser sur les institutions qui régulent, qu'il s'agisse de collectivités, d'États. Mais je crois qu'il y a un acteur dont on n'a pas suffisamment parlé, c'est la Commission européenne, qui a aussi un rôle à jouer en termes de régulation sur les sujets des données. Et c'est un des sujets importants du traité transatlantique qui est en train d'être négocié. L'exemple que citait Simon sur Uber et le partage des données, c'est un exemple d'un rapport de force qui s'établit un petit peu différemment parce qu'un régulateur, la ville de New York, a décidé et s'est impliqué pour troquer quelque chose et pour bénéficier et pour rétablir un rapport de force qui soit plus équilibré.
Dernière question, on sent tout de même, même si votre livre est très pratique, qu'il donc donne des conseils, qu'il expose, etc., on sent tout de même qu'il y a une interrogation fondamentale et une inconnue derrière tout ça. On se dirige vers un monde qu'on ne connaît pas, on peut essayer de légiférer, etc., mais il y a des forces extrêmement puissantes d'attraction vers ces nouveaux usages, etc. Et on ne sait pas, en fait, où tout cela nous mène, et d'ailleurs, le fait que vous terminiez votre livre sur des conseils pratiques, sur les enjeux politiques des données, etc., ça n'est pas innocent.
Oui, en fait, il faut peut-être reconnaître qu'on est aux frontières de l'innovation et on est forcément un peu aussi aux frontières de l'inconnu. Mais on est en train d'apprendre en marchant, en fait. C'est toujours ça avec les données. Moi, la référence que je prends souvent, vous savez, quand on a inventé l'automobile, les Britanniques, au 18e, 19e, ont mis en place les premières régulations. Donc la première régulation, c'est les véhicules ne peuvent pas rouler à plus de 6 km/h. Ils doivent être précédés 50 mètres avant d'un homme qui agitait un drapeau rouge. Vous voyez, et puis après on a inventé les autoroutes, après on a inventé la limitation de vitesse, on a inventé la ceinture et ainsi de suite. Peut-être qu'on en est là aussi un peu avec les données, on en est au stade où on essaye de voir comment on va pouvoir vivre dans ce monde-là.
Louis David, le mot de la fin.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les forces sont puissantes et massives. Et donc, c'est un rapport de force qui va s'établir. Et je crois qu'il faut avoir conscience de cela. On est au moment où le balancier s'est pas encore stabilisé. Et je crois qu'il est la responsabilité de chacun, en fonction de sa position, d'avoir d'une part conscience de ça et de savoir à quel endroit on veut que le balancier s'établisse.
Merci Simon Chignard, merci Louis-David Beignayer. Votre livre Datanomics, les nouveaux business models des données, est publié chez FYP. Pour entendre la version longue de cet entretien et pour en savoir plus, c'est sur atelier.rfi.fr. À bientôt.
À bientôt.
Merci.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
C'était l'émission numéro 393 de l'Atelier des médias proposée par Marie-Catherine Beut, Francis Pisani, Manon Mella, Mélissa Barat, Dilette Sadawi, Simon De Creuse et Ziad Malouf. Pour nous réentendre, c'est sur rfi.fr, soundcloud.com et sur toute bonne application de podcast. Si vous nous écoutez alors que vous êtes en train de courir, de vous déplacer dans la ville, dans la campagne, vous faites bien, partagez la pratique du podcast autour de vous et n'hésitez pas à commenter notre émission sur les différents réseaux de partage audio. Salut à toutes et à tous.
C'est fini ou c'est pas fini?
Ah ouais, les bonus.
Les bonus.
Ben, ça continue sur Internet.